Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
132 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, 165 jours avant les Jeux Paralympiques, et comme tous les week-ends, à cette heure-là, on prend des nouvelles de nos athlètes, on vous présente ceux et celles qui vont faire les Jeux de Paris 2024. Dans un instant, on va parler notamment de Léon Marchand, le nageur qui est attendu comme l'une des stars de ces Jeux Olympiques. Mais on est très heureux d'accueillir tout de suite notre invité, un boxeur qui a décroché sa place aux Jeux cette semaine. Djamily Aboudou est en direct dans l'Intégral Sport sur RMC. Bonjour Djamily.
Bonjour Djamily.
Bonjour, bonjour Sophie, bonjour François.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Félicitations avoir décroché cette place au jeu. Tu l'as obtenue cette semaine en atteignant les demi-finales du tournoi de qualification olympique à Busto Arsizio dans la banlieue de Milan en Italie. Et c'était la dernière chance, hein. Il ne fallait pas se rater pour toi pour obtenir ce ticket, c'est ça?
Alors, c'était pas la dernière chance, c'était l'avant-dernière. La dernière chance, c'est ça. La dernière chance, c'est à Bangkok en mai, en Thaïlande. Et donc, moi, j'ai saisi ma chance à Milan. Donc, j'ai réussi à décrocher ce ticket pour Paris.
Et t'as pu savourer depuis ta qualification en début de semaine, où ça y est, t'es déjà plongé dans la préparation des Jeux Olympiques.
Ça y est, ouais, j'ai savouré. Donc là, je prends un peu de repos. Je suis à la maison, donc j'ai pris un peu de repos et donc je repars là dans quelques jours pour une préparation sur Paris. Ensuite, on va enchaîner par Cuba pour une préparation à Cuba et ensuite ça va s'enchaîner. Il va y avoir des tournois et des stages de préparation jusqu'au jeu. Et donc, c'est pas fini la préparation.
J'imagine. Tu disais qu'il y avait encore une chance de qualification au mois de mai. Tu t'attendais à te qualifier dès maintenant? T'avais orienté ta préparation pour essayer de te débarrasser de cette qualification au plus vite?
Écoutez, moi, je pouvais pas savoir, mais j'ai mis les moyens. Je me suis donné à fond, à 100% pendant la préparation, pendant les entraînements. Et donc, on peut pas savoir, mais j'ai tout mis. J'ai mis les moyens pour décrocher cette qualification, et voilà, ça a payé. Et donc du coup, voilà, je suis qualifié pour les Jeux Olympiques. Ça m'enlève un poids. Donc maintenant je peux me préparer sereinement et jusqu'aux Jeux Olympiques.
Djamily Aboudou en direct dans l'Intégral Sport, qualifié donc dans la catégorie des plus de 92 kilos. Pour te qualifier, tu as battu le Canadien Alexis Barrière, sparring partner pour tous ceux qui connaissent la boxe, un certain Tyson Fury, donc c'est pas n'importe qui. Tu as sorti aussi un Bulgare et un Iranien. Par rapport aux Jeux Olympiques justement, et par rapport à ce tournoi qualificatif, comment tu estimes le niveau? Est-ce que c'est une très bonne préparation? Est-ce que ça veut dire que tu feras partie, pourquoi pas, des favoris lors du tournoi olympique?
Écoutez, favoris, je sais pas, mais en tout cas c'était un tournoi très relevé, parce que j'ai eu des témoignages de certains boxeurs qui me disaient que le tournoi de qualification, c'est l'étape la plus dure. Tout le monde veut sa place, que ce soit petit ou grande nation, faut pas prendre la légère des adversaires. Surtout moi, dans ma catégorie, c'est une catégorie de super lourd. Je suis en super lourd, en plus de 92 kilos. Et donc, un coup, ça peut basculer le combat.
Évidemment.
Donc, chaque nation, chaque adversaire, faut pas le prendre à la légère. Donc, tout le monde veut sa place, tout le monde veut se qualifier. Donc, c'est l'étape la plus dure, la qualification. Une fois qualifié, je pense que... Il me disait qu'une fois qualifié...
Après, la médaille, c'est facile.
C'est ça. Pas facile, mais vous êtes médaillable. Tout est possible.
Bien sûr.
Ça va être justement tes premiers Jeux. Tu avais tenté de te qualifier par le passé, ou c'est vraiment... Tu as beaucoup progressé ces dernières années?
J'avais essayé de... Moi, je suis en équipe de France depuis 2017. Donc, j'étais présélectionné pour les Jeux de Tokyo. Mais voilà, j'ai eu une blessure en 2019. Donc, le concurrent est passé devant moi. Et donc... le temps de revenir, etc. Ça a mis plus de temps. Donc, du coup, après, voilà, ça a mal pour un bien. Maintenant, j'ai tourné la page. Maintenant, je vise Paris 2024.
Sachant qu'il y avait quand même une sacrée pression, puisque c'est ta seule chance de te qualifier aux JO. Hein. J'ai cru comprendre qu'en 2028, il n'y aurait pas de boxe aux Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est ça?
Finalement, si.
C'est en suspens pendant très longtemps.
C'est vrai, ça parlait beaucoup, mais finalement, il y aura de la boxe en 2028 à Los Angeles.
Donc tu continues après et t'essayes de te qualifier pour 2028 ou tu as d'autres projets?
Il n'a même pas encore sa médaille.
pour l'instant, je me consacre.
Non, parce que beaucoup de boxeurs, c'est vrai, passent pro à un moment donné. Enfin,
c'est vrai.
C'est ça.
C'est l'étape habituelle.
C'est ça, en fonction des portes, en fonction des résultats, on verra comment ça va se passer. Mais pour l'instant, je suis fixé à Paris 2024.
Il y a quand même, la boxe est un gros pourvoyeur de médailles, on le sait, aux Jeux Olympiques. On sait qu'il y a une tradition française aussi de la boxe. Parfois, ça a été d'ailleurs difficile et douloureux pour certains boxeurs. Tu es le 8e boxeur qualifié, hommes et femmes confondus. Je vais citer par exemple Sofia Noumia, Estelle Mosley, qui ont été médaillées olympiques. Est-ce que tu vas leur demander des conseils? Tu leur as peut-être déjà parlé des Jeux Olympiques, sur la gestion d'un tel événement, même si le fait que ce soit à Paris, évidemment, ça sera peut-être puissance 1000 pour tous les athlètes français.
Bon, on a déjà discuté, hein. Après Sofiane, on est fort copains, on est dans la même équipe, on est quasiment toujours ensemble toute l'année dans les stages, dans les tournois, donc je vois un peu ce qu'il fait, on parle un peu, on discute un peu, on a déjà discuté, donc il me donne des petits conseils, c'est comme un peu un grand frère, c'est l'ancien de l'équipe et franchement il me conseille tout le temps.
Ça marche bien d'ailleurs dans l'équipe entre vous, l'équipe de France de boxe.
Ah vous savez, c'est comme une deuxième famille. Hein. Ouais. On est souvent ensemble, on est quasiment toute l'année ensemble. Donc ça marche très bien, c'est une bonne ambiance.
Ouais, donc là, vous allez vous retrouver au village olympique, c'est toujours un rendez-vous sympa, j'imagine.
C'est ce qu'on voulait, franchement, de partir tous en équipe. Parce que l'aventure, on la commence ensemble. Mmh. On aimerait la finir ensemble, tout le monde qualifié. Et donc là, il reste 3 places chez les garçons. Mmh. Donc on espère que tout le monde se qualifie pour qu'on puisse vivre l'aventure à Paris tous ensemble.
Et puis il y a aussi dans la boxe, je le disais, des souvenirs douloureux, notamment par rapport à l'arbitrage. Je ne sais pas quel est ton point de vue, Jamily, par rapport aux arbitres justement. On sait à quel point ils sont importants dans la décision d'un combat. Il y a eu des scandales même, on peut le dire, ou en tout cas des athlètes français qui ont crié au scandale après des décisions arbitrales litigieuses. Est-ce qu'il y a eu de l'amélioration selon toi par rapport à ça ?
De l'amélioration, oui, c'est plus strict. Après, c'est des jugements. Donc, il y a des arbitres qui sont pas tout à fait d'accord, mais c'est des jugements, c'est des critères de jugement. Des fois, les arbitres sont pas d'accord. Des fois, ils sont pas là en masse. C'est difficile. Des fois, il y a des combats où on a du mal à juger, surtout quand il y a des combats serrés.
Ouais.
Mais franchement, par rapport à des années, il y a de l'amélioration. Franchement, ça s'améliore.
C'était essentiel, évidemment, quand on a vu certaines séquences aux Jeux Olympiques. Et puis, si la médaille se joue à une décision arbitrale, ça peut être évidemment rageant. Jamily Aboudou, évidemment, en direct, invité de l'intégrale sport sur RMC. On va te remercier, on va te souhaiter le meilleur. On a envie de te souhaiter la médaille d'or, mais est-ce que c'est l'objectif que tu t'es fixé ou tu te dis on verra au fil des combats, au fil de la préparation, quel objectif je peux me fixer, ou t'as déjà ça en tête?
On verra comment ça se passer. Donc moi je veux pas envie de promettre aux gens que je vais faire une médaille d'or. J'aimerais bien faire une médaille d'or déjà.
Bien sûr.
Mais franchement, mon objectif c'est de faire une médaille, que ce soit bronze, argent, mais voilà. Mais on va tout donner le maximum, et en espérant être sur les plus hautes marches à Paris.
On te le souhaite en tout cas, Jamily. Merci beaucoup d'être passé sur RMC.
Merci à toi.
Et à très bientôt. On va suivre évidemment la préparation de nos boxeurs et de tous les athlètes français aux Jeux Olympiques des JO. On va continuer d'en parler, bien sûr. Merci. Puisque RMC a pu s'entretenir avec Léon Marchand, la star de la natation française qui prépare les Jeux aux États-Unis. Il se fait très rare dans les médias, donc c'est une chance de pouvoir l'entendre. Ne ratez pas ce moment, c'est tout de suite sur RMC dans l'intégrale sport. On revient en direct, à tout de suite. On continue notre mag olympique à 132 jours des JO, à 165 jours des Jeux paralympiques, avec Julien Richard qui nous a rejoint. Salut Julien.
Salut François. Salut Sophie.
Ils sont en train
salut
de discuter avec Sophie comme s'ils ne s'étaient pas vus depuis des années. Plaît. C'est incroyable. Et ça parle, à mon avis, bassin. Ça parle
pas d'attention. Du tout, pas du tout. Non, on parle de nos prochaines vacances.
Bon, en tout cas, Julien, dans un instant, tu nous donneras les toutes dernières actus olympiques, notamment des nouvelles de Félix Lebrun, la star du tennis de table français. Il y a une polémique aussi que tu vas nous raconter. Mais d'abord, on va pouvoir écouter l'un des athlètes les plus attendus pour ces Jeux olympiques. Il s'agit bien sûr de Léon Marchand qui a accepté de parler à trois médias dont RMC. Une prise de parole rare puisqu'on n'avait plus entendu depuis les mondiaux de Fukuoka l'été dernier où il avait décroché trois titres mondiaux, 200 mètres papillon, 200 mètres 4 nages et le chef-d'œuvre du 400 mètres 4 nages avec le record du monde de Phelps battu sous les yeux du GOAT. Tu as donc pu t'entretenir, Julien, avec Léon Marchand. D'abord, des nouvelles de sa santé.
Oui, parce qu'on l'a vu briller notamment la semaine dernière sur une compétition universitaire, comme d'hab, on a envie de dire, avec trois victoires, un record, la routine presque. Et, sauf que ces derniers mois, ils n'ont pas été aussi simples que ça. Et notamment cet automne, Léon Marchand a été malade plusieurs fois, à répétition, sans vraiment comprendre au début les raisons de tout ça. Il a fini par se faire opérer les dents de sagesse fin novembre. Le problème est résolu, mais ça n'a pas été évident.
Bah, c'était une saison avec des hauts et des bas, je veux dire. Plus de bas que de hauts, contrairement aux autres saisons, je pense. C'est ça qui était dur, c'était de se dire que s'il y avait une année à pas tomber malade, c'était vraiment cette année, quoi. Donc forcément, c'était un peu dur. Et puis surtout, d'être tout seul, reprendre à zéro tout l'entraînement, c'était difficile pendant les deux, trois premières semaines, car j'avais pas trop... J'étais loin de mon niveau, en tout cas, dans l'eau. Et puis tout le monde faisait des compétitions, tout le monde était un peu affûté, faisait des bons temps, et moi j'étais là à m'entraîner un peu tout seul. Donc pas facile.
Il le dit, Léon Marchand, c'est dommage, c'est vrai que ça tombe l'année olympique, là, cette rage de dents, enfin en tout cas ces dents de sagesse qu'il a dû s'enlever. C'est pas anodin en plus, hein, pour ceux qui l'ont fait, c'est une vraie opération quand même, la dent de sagesse. Hein.
Tu me poses cette question, François?
Non, je ne sais pas.
Oui. Je me suis fait enlever en pleine carrière aussi.
Non, mais c'est bien parce que
un problème de dents peut vraiment générer des blessures des musculaires, ailleurs, des tendinites, etc. Donc, il a dû se rendre compte qu'avec cette succession de problèmes, effectivement, il avait besoin de se faire retirer ses dents de sagesse. Maintenant, il a raté quelques jours d'entraînement et quand on voit le niveau qu'il a déjà réussi à obtenir ici, quand on voit qu'il continue à progresser, on n'est pas très inquiet. Il ne fallait pas que ça arrive 15 jours avant les Jeux, tout simplement.
Il est plus rapide peut-être maintenant. Il a moins de gens. Il les remplace par des dents de requin peut-être pour aller plus vite.
Les branchies.
Objectif maintenant donc pour Léon Marchand, Julien.
Ce sont les championnats, les finales des championnats universitaires NCAA. C'est la grand-messe là-bas hein, aux États-Unis. Ouais. On appelle ça la March Madness. Ce sera du 27 au 30 mars. On sera sur place et on va vous raconter tout ça. Mais Léon, pour vous décrire à quel point c'est devenu une attraction aux États-Unis. Alors, entendons-nous bien, dans le milieu de la natation, les finales universitaires, donc March Madness, les médias spécialisés l'ont renommé la Marchant Madness.
Pas mal, ils sont bons en marketing.
Ils sont pas mal. Ils guettent tous les faits et gestes, le moindre petit défi qu'ils lancent à l'entraînement, ça se finit dans des gros titres sur les sites internet. Par exemple, la dernière compétition la semaine dernière qu'il a disputée, tout le monde cherchait à savoir, c'était le gros débat, est-ce que Léon Marchand est préparé ou pas, est-ce qu'il est affûté ou pas? Écoutez ce qu'il a constaté au bord du bassin.
Et les gens, ils essayaient de trouver si je m'étais rasé ou pas. Il y avait des nageurs qui restaient fixés sur mes jambes pour voir si j'avais des poils ou pas pendant la compète du Pac-12. Donc c'était drôle. Moi, j'ai gardé le secret, mais bon, je pense que tout le monde savait.
Spoiler, je vous dirai pas. Mais il les avait encore, il les enlèvera pour les finales NCAA. En natation, se raser, c'est un signe qui permet, Sophie, tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi, de passer en mode compétition. Quoi. C'est le dernier truc qu'on fait quand on est préparé pour une compétition.
C'est plus psychologique que physiologique, véritablement. Ah, mais oui, c'est vrai que quand on se rase comme ça, les jambes ou le dos, ça peut arriver aussi, les bras, les nageurs, le torse, etc. On a l'impression de plonger dans du coton. C'est une impression assez incroyable.
C'est incroyable, en tout cas, de voir à quel point Léon Marchand, il a fait son trou aux États-Unis et que les médias et les gens spécialistes de natation, ils le suivent comme ça, pas à pas. Quoi.
Mais parce qu'un nageur comme Léon, il y en a un par génération au niveau mondial. Il est en train d'écrire son histoire et de devenir l'un des tout meilleurs nageurs de l'histoire de la natation mondiale. Quand Rudy Gaines, qui est champion olympique du 100 mètres en 1984 à Los Angeles, raconte sur CNN qu'il est de la trempe de Mark Spitz ou de Cathy Ledecky ou de Michael Phelps. Voilà, les Américains se rendent compte qu'il se passe quelque chose à chaque fois que Léon est dans le bassin. Voilà.
Bah justement, la pression, bah il continue son petit bout, son petit train-train. Envie de dire sa vie aux États-Unis, un peu loin de tout ça, du tumulte, de la préparation des jeux. Il continue par exemple à suivre ses cours d'informatique. Alors il a un peu allégé le nombre d'heures de cours, mais ça lui permet d'avoir cet équilibre-là sur le campus donc d'Arizona State où il s'entraîne. Et finalement, les jeux, c'est encore un peu loin pour lui. Il a vaguement vu les images du village olympique. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il avait bien aimé. Les lits en carton, bah, il connaissait puisque c'était déjà le cas. C'était déjà le cas à Tokyo. Il a vu aussi les images de la piscine qui sera installée dans la Paris La Défense à Arena, qui est à la base une salle de concert. Ce qui paraît beaucoup plus concret en revanche pour lui, eh bien, c'est qu'il a bien compris qu'il sera l'une des stars attendues de ces jeux et de la délégation française à Paris.
Je me prépare mentalement et physiquement pour ça. Je l'ai su depuis que je pense que j'ai battu le record de Michael. Je pense que tout de suite dans ma tête, je me suis dit bon ben les Jeux de Paris, ça va être différent que comme je l'avais imaginé. Donc oui, forcément, je me prépare tous les jours. J'ai mon prépa mental. On prépare sur l'attente, tout ce qui va être autour de moi justement pendant ces deux semaines qui vont être assez intenses. Et mais c'est un nouveau challenge et puis c'est une chance surtout. Ben, là, j'ai 21 ans, j'arrive à mon pic. J'ai envie de dire presque dans mon sport. Et les Jeux sont à la maison, donc. Quoi demander de plus, quoi. Je vais pas me plaindre, je vais me préparer au maximum et je vais profiter quand je serai là-bas, quoi.
Voilà, Léon Marchand que RMC donc a pu interroger hier grâce à toi, Julien. On va continuer d'entendre, mais moi quand je l'écoute là, j'ai l'impression d'un bonhomme qui a une expérience de dingue, la tête sur les épaules. Comme le disait Julien, ça va être l'une des stars, évidemment l'une des attractions de ces Jeux Olympiques. Voilà, il est prêt, quoi. Enfin, on le sent prêt, en tout cas.
Oui, il est prêt. Il sait qu'il continue à progresser. Il a fait les Jeux Olympiques de Tokyo. Hein. Il était tout jeune à l'époque. Ouais. Hein. Mais il avait déjà fait une finale olympique. Donc, il découvre pas non plus les Jeux Olympiques à Paris.
C'est en France après. Quand
c'est
même,
en France, mais lui, alors j'ai envie de dire, il est préparé. Il se prépare mentalement, parce qu'il a un préparateur mental avec qui il fait un boulot incroyable. Mais en même temps, il est pas ennuyé au quotidien, comme ça peut être le cas des meilleurs sportifs. Français aujourd'hui avec des JO à domicile. Moi, je vais être très honnête avec vous, je m'occupe d'athlètes depuis un certain nombre d'années, j'ai vécu quelques Olympiades, je n'ai jamais vu autant de sollicitations pour les meilleurs, et c'est pas forcément évident. Et quand on parle de pression de Jeux Olympiques à domicile, c'est pas la pression du village olympique, parce que quand on est dans le village, qu'on soit à Tokyo, à Rio, à Paris, on est dans sa bulle, on nage ses épreuves, c'est vraiment la pression des mois qui précèdent. Ouais. Et je peux vous dire que la pression des Jeux Olympiques à domicile n'a rien à voir avec la pression des Jeux Olympiques précédents. Et lui, il est un petit peu à l'écart de tout ça, et finalement, il vit son année comme il a vécu l'année dernière, ou comme il vivra l'année prochaine, et c'est plutôt pas mal.
Et il coche les cases, c'est ça. On a l'impression que hop, ça c'est bon, c'est validé, j'ai compris comment ça marchait, on passe à autre chose et on avance. Ce sera le cas de son retour en France, parce que ça fait finalement un an qu'il n'est pas revenu. La dernière fois, c'était au championnat de France à Rennes, et c'était la première fois qu'il se confrontait avec son nouveau statut, justement à l'attention. Il capte toute l'attention de la piscine, ou quasiment toute, faut être assez clair. C'était un peu l'attraction, et ça le sera de nouveau lors des championnats de France qui serviront de sélection olympique. C'est uniquement à Chartres du 16 au 21 juin prochain que les nageurs français vont se qualifier pour les JO. Retour au contact du public, avec donc cette attention sur lui, ça n'avait pas été simple l'an dernier. D'ailleurs, il l'avait avoué, il avait expliqué que il s'attendait, il avait eu du mal à gérer ça. Mais maintenant, justement, il a coché la petite case, hop, il sait.
Je suis excité à l'idée de rentrer en France et de préparer les Jeux. Ouais. Pas trop d'appréhension. Forcément, là, j'ai un peu plus d'expérience, donc je vais mieux le gérer, je pense. Et je vais essayer d'être un peu plus ouvert, je pense, en termes de rencontres avec les gens, de voir les gens après la compète, peut-être de signer 2-3 trucs et tout, et de partager un peu plus. Mais parce que maintenant, je pense que je suis prêt et j'ai appris à le faire l'année dernière, donc je pense que je gérerai mieux cette année, avec un peu moins de perte d'énergie aussi.
Léon Marchand, j'allais dire, voilà, qui est bluffant par son calme malgré la pression qui l'entoure évidemment et cette gestion qu'il doit faire avant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il en a dit un peu plus sur son programme avant les JO?
Oui, et c'est très intéressant. Même si rien n'est décidé, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Rappeler déjà quand même, c'est pas rien qu'on a changé le programme olympique pour lui. Alors changer. On l'a légèrement modifié, mais
on a modifié l'ordre des courses.
On a modifié l'ordre des courses du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse, qui sont le même jour et qu'il voulait nager et qu'il peut potentiellement nager, sur lesquels il peut briller. Donc ça devait s'enchaîner. Les finales le mercredi 31 juillet. Il y aura finalement 1h15 entre les deux courses. Ça fait quand même quelque chose de dire qu'on a changé le programme pour lui, quoi.
Moi je savais pas, j'ai lu le truc, j'ai fait ah ouais, d'accord. En fait, j'en ai parlé à Bob après et tout. C'est incroyable en vrai. C'est incroyable qu'ils aient pu changer le programme. Je pense qu'ils veulent aussi du spectacle, un peu comme les Américains. Donc forcément, ils aimeraient bien que je fasse les deux courses. Même comme les fins, depuis tout le monde, je pense, envie que je fasse les deux courses, mais changer tout un programme juste pour un nageur, ça fait un peu bizarre au début. Mais c'est aussi le fait qu'il y a pas grand monde qui fait du papillon et de la brasse comme je le fais, je pense. Mais ouais, ça fait bizarre, sachant que mes derniers Jeux Olympiques, je suis arrivé 6e. Donc ça montre que mon statut a changé là pendant 3-4 ans. Donc après voilà, maintenant va falloir répondre présent quoi, mais ouais, je trouve ça sympa.
Ouais, statut a légèrement changé. dans le détail, ce qui est sûr évidemment. Dans son programme, alors faut être bien concentré. Le 400 mètres 4 nages, ça c'est sa première course, c'est le dimanche 28 juillet, c'est la deuxième journée des épreuves. Donc ça c'est bon, ça c'est sa pièce maîtresse avec le 204 nages qui est plutôt en fin de semaine, jeudi et vendredi dans la semaine olympique. La difficulté c'est donc ce 200 mètres brasse et ce 200 mètres papillon qui ont lieu le même jour. Les séries, les demi-finales le mardi et les deux finales le mercredi soir. Il y a cette possibilité-là qui s'est offerte à lui avec ce changement, mais ça ne veut pas dire qu'il le fera. La décision, ça se prendra vraiment, peut-être même au dernier moment, au moment des championnats de France.
Et en fonction de ses résultats au championnat de France.
En fonction des résultats, de ses sensations à l'entraînement sur tel ou tel nage, etc. Donc c'est.
Il a la possibilité de faire les quatre courses. Il en fera trois, sûr. Il peut en gagner trois, sûr. Maintenant, effectivement, il peut en faire quatre et il peut sur le 200 pape et le 200 brasse, il peut aussi gagner la course. Enfin, en tout cas, au moins
gagner
avoir
les
une
deux
médaille.
En même temps,
tout est possible. Mais en tout cas, c'est difficile de faire un choix quand on est aussi bon en brasse et en pape. Et il le dit lui-même, il est le seul nageur au monde à pouvoir gagner le 200 pape et le 200 brasse. Et moi, c'est ce qui me surprend encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je dis qu'il progresse. C'est quand on voit cette polyvalence. Là, il vient de battre le record NCAA du 500 yards nage libre. Nage libre, c'est quand même pas sa discipline de prédilection.
Ça fait quoi 500 yards
hein. 500 yards, ça fait
25 yards, c'est 22,86 m.
Voilà, un peu plus de.
Il fera le calcul règle 3. Ouais, bon. Mais, reste à une heure.
Et ouais. il bat le record NCAA. Il bat le record NCAA de Kieran Smith, qui n'est pas un inconnu, puisqu'il a fait 3e aux Jeux de Tokyo sur le 400 libre. Et Léon est capable d'aller plus vite, alors que la nage libre, au départ, c'est quand même pas sa distance. Donc voilà, on voit qu'il est de plus en plus polyvalent, qu'il peut nager de plus en plus de choses, et bien évidemment, ça va l'aider dans les épreuves de 4 nages. Le finish avec le crawl qu'il a aujourd'hui va être dément, quoi.
Je rebondis sur ce que vient de dire Sophie, puisqu'on en a parlé justement avec Léon, je suis arrivé avec mes grands sabots. Le 400 mètres nage libre, c'est le premier jour des Jeux Olympiques, il n'a pas de course, il y a un petit creux dans son programme.
Non, non.
Donc je dis, est-ce que ça fait partie est-ce que ça peut être une option? Il était clair, non, aucune chance que je nage le 400 mètres nage libre, mais pourquoi pas dans le futur, ça peut devenir une distance qui m'intéresse, ça, et le 200 mètres nage libre. Dernière chose sur ce programme, c'est que ce choix du 200 mètres brasse ou 200 mètres papillon ou les deux. Ça va conditionner quelque chose pour ses coéquipiers du relais 4 x 200 mètres nage libre. Ce qui nous a expliqué que c'est que s'il choisit de nager les deux, eh bien, il ne pourra pas prendre part au relais 4 x 200 mètres nage libre, qui est aussi potentiellement une chance de médaille, avec la progression des nageurs français. Mais il a été assez clair. S'il fait les deux, ça va être impossible parce que le relais est placé le jour des séries, des demi-finales, des ces deux courses. Donc, c'est impossible de rentrer.
Et il a quand même le 204 nage le lendemain ou le surlendemain, qui sera sa 10e course individuelle s'il fait à la fois le 200 pape et le 200 brasse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a séries, demi-finales et finales sur les épreuves de 200. Donc voilà. Et le 204 nage, c'est une course dans laquelle il est favori, mais sur laquelle il a beaucoup moins de marge que sur le 404 nage. Donc il faudra aussi faire ces calculs-là.
En tout cas, Julien, c'était parfait d'entendre Léon Marchand. Interview à retrouver aussi sur rmcsport.fr, bien évidemment. Et on suivra sa préparation sur RMC avec toi, notamment, Julien, bien sûr. On l'a bien compris. Tu restes avec nous parce que tu as d'autres actus olympiques à nous donner. Notamment, tu nous parleras de Félix Lebrun, de Kylian Mbappé, de drapeau, de bébé, tout ça, voilà, Camoulox, dans un instant. Mais on va continuer de parler des Jeux Olympiques et le journal olympique avec Julien Richard, toujours là. Julien, on va commencer ton journal olympique, Julien, avec un résultat tout frais, la défaite malheureusement de Félix Lebrun. C'était il y a quelques minutes en tennis de table.
Ouais, Félix Lebrun battu 4-7-1 en demi-finale du Grand Smash par le chinois Wang Shuqin, numéro 2 mondial, et qui va passer numéro 1 mondial à l'issue de ce tournoi. C'était la première demi-finale du français, du phénomène sur ce tournoi qui est l'équivalent d'un grand chelem en tennis. Félix Lebrun, 17 ans, qui était 6e au classement mondial, va gagner une place. Il sera 5e et poursuit son ascension donc à quelques semaines des JO. Autre résultat tout frais en badminton. Et c'est un peu le même topo finalement. Christo Popov battu en demi-finale de l'Open d'Angleterre par l'Indonésien Anthony Gritin. Premier français à intégrer le dernier carré d'un Super 1000. Là aussi, ça correspond à, en gros, à un tournoi du Grand Chelem en tennis, un des quatre plus gros tournois de la planète. Et malgré cette défaite, eh bien, Christo Popov a pris une grosse option sur la qualif olympique. Vous savez qu'il est à la
ligne. Oui, ça c'est terrible.
Avec son frère, Thomas Popov.
Il n'y en a qu'un seul qui pourra participer aux Jeux Olympiques, c'est dur.
On va faire un grand écart sur les dates de naissance. On parlait de Félix Lebrun, 17 ans. On passe à Vincent Gérard, 37 ans, le gardien de l'équipe de France de handball qui est lancé dans un contre-la-montre pour disputer les JO. L'équipe de France affronte à 16h l'Égypte à Nantes. C'est le trophée des continents. L'Égypte est championne d'Afrique. Arnaud Valadon est avec nous. Salut Arnaud.
Bonjour Julien.
Vincent Gérard, champion du monde, champion olympique. Il est de retour chez les Bleus en bleu cette semaine après avoir subi plusieurs blessures, avoir raté donc le championnat d'Europe victorieux et puis avoir été transféré en deuxième division pour jouer.
Saison un peu rocambolesque pour Vincent Gérard. Été 2023, il quitte Saint-Raphaël car il a une opportunité pour jouer à Kiel, un des plus grands clubs d'Europe, sauf qu'il est victime très rapidement d'une pubalgie. Opération, plusieurs mois d'arrêt. Le club allemand recrute alors un joker, un autre gardien français, Samir Bellassène, devenu la révélation du dernier Euro. Kiel dit alors à Gérard, tu es troisième gardien, tu ne joueras pas. Et donc à 6 mois des Jeux Olympiques, il y a donc urgence pour jouer, mais aucun poste n'est disponible sur le marché. Finalement, Vincent Gérard trouve il y a un mois un point de chute, le club d'Istres, pensionnaire de Pro League, la deuxième division.
Il ne faut pas faire de la Pro League ce qu'elle n'est pas. Moi, je le prends aussi comme une expérience du fait de se dire il va falloir que je joue une heure par match tout le temps, des matchs en jeu. Il y a un Final Four à aller chercher, il y a une montée éventuelle. Donc, il y a vraiment de l'enjeu. Est-ce que ça aurait été mieux d'être dans un club de bas de tableau, milieu de tableau de D1 qui n'a plus rien à jouer avec des matchs qui sont beaucoup moins en jeu? Je n'ai pas la réponse.
Et jeudi, en équipe de France, à Montpellier, lors de ce trophée des continents, Vincent Gérard a donc rejoué pour ce tournoi amical. Le gardien aux 151 sélections a signé 12 arrêts en deuxième mi-temps. Une belle perf qui rassure dans l'optique des JO. Le sélectionneur Guillaume Gilles, avant le match, saluait déjà l'état d'esprit du revenant.
Un peu de pudeur ou de retenue de réintégrer ce groupe, conscient de ce que cette équipe a aussi vécu en termes d'expérience collective durant le mois de janvier, mais au travail avec le bon état d'esprit sur le chemin du retour pour lui.
Et un casse-tête à venir pour le sélectionneur, car il ne devra emmener que 2 gardiens, alors qu'aujourd'hui ils sont 4. L'expérience de Gérard est un plus. L'éclosion de Samir Bellassène pourrait donc priver les 2 Montpelliérains, Rémi Desbonnets et Charles Bolzinger, du 2e ticket.
Et on suivra ça donc dès cet après-midi. France-Égypte à vivre sur RMC, le coup d'envoi à 16h.
Julien, on connaît aussi les règles de désignation des porte-drapeaux de la délégation française.
Qui va défiler avec les drapeaux français sur la scène? Un homme et une femme, ça on le sait. Mais qui donc? Le Comité national olympique français a dévoilé les critères et le mode de désignation cette semaine. Il faudra donc, notez bien, pour cocher les cases, avoir déjà participé au JO. Bon,
moi, j'ai déjà perdu.
Voilà, okay. Vous avez. Il n'y a que Sophie qui peut rester là.
Sophie, c'est bon.
Je fais encore. Je reste. Je suis en course.
En tout cas, ça exclut pour Antoine Dupont, par exemple, ou Kylian Mbappé, qui n'ont jamais fait les Jeux. Ça reste à préciser, car c'est encore un peu flou. On a dit qu'on préciserait tout ça, mais respecter, incarner les valeurs olympiques et l'éthique sportive. En gros, ne pas avoir eu d'ennui avec la justice, mais encore une fois, Sophie, ce sera priori, précisé dans les prochains jours. On pourrait penser, par exemple, à Nicolas Karabatic, concerné par l'affaire des paris sportifs. Ne pas avoir déjà été porte-drapeau, donc pas de Teddy Riner, porte-drapeau en 2016 ou encore Clarisse Agbignolo.
C'est un peu logique en même temps, hein. Il y a tellement de postulants que c'est bien aussi de changer.
Clarisse avait officié à Tokyo, elle était plébiscitée dans un récent sondage, elle a ironisé sur X, ancien Twitter, sur ses conditions discriminantes, c'est ce qu'elle a dit. Écoutez le président du Comité olympique français, David Lapartien.
Nous considérons, et la commission des athlètes de haut niveau, les fédérations olympiques, que c'est formidable d'avoir été porte-drapeau. C'est une chance quelque part inouïe dans une vie. C'est associé à une édition des Jeux Olympiques et qu'il est la densité du sport français est telle, avec 560 athlètes qui vont être qualifiés, qu'il y a aussi plein de porte-drapeaux potentiels. Et donc on a souhaité donner aussi d'autres possibilités. L'homme et la femme qui auront le plus de voix seront tous les deux porte-drapeaux.
Chaque fédération pourra proposer 2 athlètes, un homme et une femme, et ce sont donc les athlètes sélectionnés pour Paris qui voteront pour leurs 2 porte-drapeaux. Donc ces porte-drapeaux seront désignés assez tard et ça pourra pas être 2 athlètes issus d'une même fédération d'un même sport.
C'est aussi, à noter ça aussi, donc ça complique un peu logique. Le jeu de... peut-être des idées, Sophie, de porte-drapeaux.
Bah, quand on regarde ces différents critères, on pense évidemment, je dis pas ça parce que c'est de la natation, mais un garçon comme Florent Manodou peut avoir
toutes ses
chances. Il est candidat, oui.
Nico Karabatic, pour ce qu'a dit Julien, peut-être un peu moins, ouais. Même si c'est le plus beau palmarès du sport français aujourd'hui et qu'il apporterait beaucoup à cette équipe de France aussi en tant que capitaine, parce qu'il faut savoir qu'un porte-drapeau, c'est quand même le capitaine. Mmh. Et puis chez les femmes, moi, je pense évidemment tout de suite à Mélina Robert-Michon qui va faire ses 7e Jeux Olympiques, ce qui est totalement incroyable.
Et qui est candidate évidemment et qui sera proposée d'ailleurs c'est sûr par la fédération d'athlétisme
elle a le profil
pour être candidate évidemment.
On l'a compris, Kylian Mbappé ne sera pas porte-drapeau, mais de toute façon il se peut fortement, Julien, qu'il ne soit pas au JO tout court avec ou sans drapeau.
Que son très probable futur club, le Real Madrid, a envoyé cette semaine un courrier à la Fédération française de football lui indiquant qu'elle ne libérerait pas les internationaux français pour les JO. Alors vous le savez, au foot, les jeux, c'est un peu particulier. Ça fait pas partie des fenêtres internationales, donc les clubs en gros font ce qu'ils veulent. Le Real, dans son mail, ne cite pas précisément Mbappé. Bah, logique, il n'est pas encore en contrat, mais il parle d'Eduardo Camavinga ou Ferland Mendy. Mais l'avenir olympique du champion du monde semble tout de même s'obscurcir et pas sûr donc que le sélectionneur Thierry Henry puisse compter sur l'attaquant du PSG. Didier Deschamps, lui, il aura Mbappé pour l'Euro qui débute le 14 juin. Il a été interrogé cette semaine en conférence de presse et il prévient que de toute façon, enchaîner Euro en juin et Jeux Olympiques dans la foulée, c'est pas forcément une bonne idée.
C'est très difficile sur un plan psychologique et sur un plan physique de pouvoir enchaîner deux compétitions comme ça en été, sans avoir eu de vacances. Mais à part ça, l'objectif reste le même, c'est de faire en sorte d'avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi. J'espère pour lui qu'il pourra avoir un oui ferme et définitif. À partir du moment où nous, on se rend en stage de prépa à Clairefontaine, les choses sont claires. Ceux qui iront, ceux qui iront pas.
Voilà pour les mots de Didier Deschamps sur Kylian Mbappé, à suivre donc bien sûr. Et puis pas de semaine sans la petite polémique aux Jeux Olympiques.
Oui, ce serait pas drôle sinon.
Qu'est-ce que c'est que ça?
A priori, c'est un bébé. Un bébé, un billet. La réglementation de la billetterie des JO de Paris prévoit que les bébés, comme tout le monde, doivent avoir un billet pour les Jeux Olympiques, peu importe l'âge, donc pour assister aux épreuves olympiques. Sauf que certains ont acheté des billets pour les Jeux avant que bébé ne soit né. C'est le cas de Margot Giddins, qui est infirmière. Elle a 33 ans. Elle avait pris des billets pour la gymnastique avant de tomber enceinte et donc avant d'accoucher.
C'est un rêve depuis gamine. En fait, j'ai fait de la gym pendant 15 ans. Puis j'ai rêvé de voir une compétition de ce niveau. Je n'ai pas le budget pour acheter une place pour ma fille qui aura 4 mois, quoi. Quand même 700 euros. Soit je la laisse, mais du coup, c'est un peu compliqué de laisser un bébé de 4 mois qui est allaité pendant potentiellement 2 jours, quoi. Soit je l'emmène avec moi, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre aussi qui vienne avec moi, qui la garde au moins le temps de la compétition. Et après, si je vois que c'est trop compliqué, je revendrai ma place. Hein.
Sophie, voilà.
Il y avait la même polémique aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, ouais. et les Anglais avaient cédé devant la pression populaire et finalement ils avaient accepté que les femmes qui avaient déjà leur place, parce que parfois on achète les places deux ans à l'avance, qui tombent enceintes, etc., pouvaient venir gratuitement.
En plus, le bébé il prend pas de place.
Exactement. Mais moi, ça illustre pour moi un problème qui est encore plus gênant. C'est que il n'y a pas de tarif préférentiel pour les enfants, il n'y a pas de pack famille. Super. Aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques oui, aux Jeux Olympiques non. Et je trouve ça un petit peu dur parce que le bébé il s'en souviendra pas des Jeux Olympiques, mais les enfants, on a tous rêvé, étant gamin, d'assister à des Jeux Olympiques. Ça fait rêver les enfants, ça leur donne envie de s'inscrire dans les clubs. Les Jeux Olympiques, ça se vit en famille. Et il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne viendront pas aux Jeux Olympiques, des familles de province, parce que c'est trop cher d'acheter des billets à tarif plein pour toute la famille, en plus de l'hébergement, en plus des transports, etc. Et je trouve dommage qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit fait pour les enfants et pour les familles, parce que ça doit être la fête des familles avant tout.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Bravo Sophie. Le point sur Milan Sanremo avec un autre beau bébé, Arnaud Souk.
Ah, mais je suis d'accord avec vous, avec tout ce que j'entends. L'avantage du vélo, c'est que c'est gratuit pour les petits comme pour les grands. 77 km encore à parcourir dans cette classicissima Milan-San Remo, premier monument cycliste de la saison. Vous savez, ce sont ces classiques, ces 5 classiques qui comptent plus que toutes les autres courses. Il y a Milan-San Remo, il y aura le Tour des Flandres dans 2 semaines, il y aura ensuite Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et un petit peu plus tard dans la saison, le Tour de Lombardie. 77 km, on a toujours nos 9 fuyards devant, dont le français Romain Combeau qui dispose de 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton qui maîtrise cet écart. Il y a fort à parier que l'échappée sera encore formée dans une cinquantaine de kilomètres au pied de la Cipressa, l'avant-dernière difficulté de la journée qui devrait à ce moment-là écumer largement les groupes des favoris.
Merci beaucoup Arnaud, on suit bien sûr ce Milan San Remo avec toi. On va remercier Julien d'être venu pour son journal olympique. Merci beaucoup Sophie, à très bientôt sur RMC.
Merci.
Bonne journée à toi.